Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 20 mai, le collectif Sinon Rien, on ne parle pas de football mais de pandémie. La fête était belle hier en ce jour de réouverture, mais Jean Castex en appelle ce matin à la responsabilité et à une discipline collective. Il annoncera cet après-midi une accélération de la vaccination pour les plus de 18 ans. Information RTL. Mais quelle est l'efficacité réelle des vaccins? Faut-il déjà envisager une troisième dose? Nous serons en ligne avec l'infectiologue Odile Launay. Votre facture d'électricité a mis les doigts dans la prise. L'UFC Que Choisir dénonce une hausse de 50% en 10 ans. Nous essaierons de comprendre pourquoi la concurrence ne fait pas baisser les prix. Dans RTL Midi aussi, des ratés sur les pensions de retraite. Un dossier sur 6 fait l'objet d'erreurs. 2500 femmes indemnisées après avoir porté des prothèses mammaires PIP. La société qui avait certifié ces prothèses pourtant défectueuses vient d'être condamnée par la Cour d'appel de Paris. Et puis le coup de cœur de nos correspondants nous emmènera à Bordeaux à la rencontre d'un homme qui brandit en ce moment une pancarte en plein centre-ville. Il a 80 ans, il est entrepreneur et il manque de bras. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Ça y est, le soleil se déconfine.
Ah, ça fait du bien. Alors globalement, on aura un temps sec encore cet après-midi. Et c'est idéal d'ailleurs pour aller manger en terrasse. Pourquoi pas, c'est la meilleure journée, on en profite. Ce sera juste plus voilé sur la moitié nord, bien lumineux sur la moitié sud. Allez, il peut encore y avoir 2-3 gouttes sur l'extrême nord-est et petit bémol entre la Bretagne et la Basse-Normandie avec, ça y est, une nouvelle perturbation qui revient. Beaucoup de nuages, beaucoup de vent, mais peu de pluie. Tout ça sous des températures en hausse, comprises entre 15 à Brest et 24 à Marseille, 17 à Lille et Strasbourg, 19 à Paris et 23 à Bordeaux.
La question du jour sur RTL.fr. Votre facture d'électricité a-t-elle augmenté? Vous êtes 73% à nous dire oui, il y a 17% de non. On attend vos témoignages au 32-10. Bonjour Pascal Pro.
Exactement, c'est une question intéressante. L'autre sujet du jour, c'est le problème de la police, c'est la justice. Vous avez peut-être entendu cette phrase lâchée par un syndicat de policiers hier, Alliance. Qu'est-ce que vous en pensez? La réouverture des terrasses sera à notre menu. Les propos de Jean-Luc Mélenchon qui a qualifié la manifestation à caractère ostensiblement factieux hier. Et puis nous pourrons également revenir sur la chanson officielle des Bleus qui est interprétée par le rappeur Youssoufa. Écris mon nom en bleu. On l'écoutera et vous nous donnerez votre avis. A tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
C'est une première en France pour des cas contacts. Une femme a porté plainte auprès du procureur de la République de Nevers pour homicide involontaire après la mort de sa mère, emportée par le Covid. Elle met en cause des cousins qui lui ont rendu visite alors qu'ils étaient cas contact, Valentin Boisset.
Oui, l'histoire remonte à novembre dernier. Bernadette, 80 ans, reçoit donc un couple de proches dans son domicile de Saint-Cyprien. Les gestes barrières ne sont pas vraiment respectés, les masques tombent. Mais Bernadette ne le sait pas encore, le couple s'est fait tester la veille. Ils sont tous deux cas contact et ne se sont pas isolés. Le lendemain de leur visite, ils apprennent qu'ils sont bien porteurs du virus. Bernadette se fait donc tester. Elle est positive, elle aussi, une semaine après. Son état va très vite se dégrader. Elle finit par être hospitalisée, plonge dans le coma. Puis elle décède quelques jours plus tard du Covid-19. Sa fille, Fabienne, a donc décidé de porter plainte pour homicide involontaire avec d'autres membres de la famille. Ils sont tout simplement convaincus, selon leur avocat, que le couple est responsable de la mort de Bernadette. Le parquet devra maintenant définir si une suite sera donnée à cette affaire.
Valentin Boisset, c'était jour de fête hier avec la réouverture. Les terrasses ont débordé, les verres aussi. À Paris, Rennes ou encore à Bordeaux, l'apéro a dépassé l'heure du couvre-feu. Il a fallu intervenir. Et ce matin, Jean Castex, en visite à Blois, lance un rappel à l'ordre.
Hier, c'était la ouverture. Bon, on comprend qu'il y a eu un engouement. Mais j'appelle tout le monde, c'est notre intérêt commun à respecter les règles. On a organisé, vous le savez, une rouverture progressive avec des étapes, avec des protocoles qui ont été, je le rappelle, non pas imposés, mais concertés avec des professionnels. Donc c'est notre intérêt collectif à tous de respecter les règles. L'appel à la responsabilité. Les gens aiment rester en terrasse, bien entendu. Personne ne veut qu'on les referme. C'est pas l'objectif. Donc l'objectif, c'est d'y arriver, on va y arriver. Donc ça suppose, comme toujours, une discipline collective. C'est à notre portée. C'est à notre portée. Ayons confiance. On va y arriver.
Jean Castex au micro RTL de Christian Panvert. L'autre pendant, évidemment, c'est la vaccination. Le Premier ministre va annoncer cet après-midi l'accélération de la campagne. Pour l'instant, tous les plus de 18 ans doivent patienter jusqu'au 15 juin, mais ce délai sera raccourci. C'est une information RTL de Jacques Seret. Plus de 21 millions de personnes ont reçu au moins une dose. 9 200 000 les deux. L'hôpital de Strasbourg a mené une étude très intéressante sur le personnel soignant qui a été touché lors de la première vague du Covid. Un an après, Yannick Holland, 97% ont gardé des anticorps.
Oui, et ce qui est très encourageant, c'est que ce sont des soignants qui ont eu des formes légères du Covid, la plupart sans hospitalisation, mais ça suffit pour garder longtemps des anticorps protecteurs. Il faut quand même une dose de vaccin, comme l'explique le professeur Samira Fafi-Kremer, la directrice de l'Institut de virologie de l'hôpital de Strasbourg.
On a vu que ces taux d'anticorps mesurés à un an, ils neutralisent la souche sauvage, celle qui a circulé depuis le début, et le variant anglais. En revanche, elle ne neutralise pas le variant sud-africain. Par contre, quand ces personnes-là sont vaccinées avec une seule dose, leur taux d'anticorps augmente tellement fort qu'il est capable de neutraliser tous les variants.
Donc pour les anciens malades, une seule dose suffit, et précision importante, quel que soit le vaccin utilisé, AstraZeneca, Pfizer ou Moderna, les chercheurs ont remarqué la même réponse immunitaire. Et le taux d'anticorps est tellement élevé que les virologues de Strasbourg pensent que la protection devrait durer beaucoup plus longtemps que prévu. Un rappel ne serait du coup peut-être pas nécessaire ou pas tout de suite. C'est une hypothèse de travail pour ces chercheurs qui vont donc continuer à suivre les soignants strasbourgeois sur une très longue période pour en avoir le cœur net.
Merci Yannick. Pour bien comprendre, nous sommes avec la professeure Odile Launay, infectiologue et membre du comité vaccin Covid-19. Bonjour.
Bonjour.
Une seule dose suffit, hein, nous disait notre correspondant à Strasbourg à l'instant. C'est rassurant quand même.
Oui, alors c'est des données qu'on avait déjà et qui montrent qu'en fait, quand on a été infecté avec ce virus, on a une très bonne réponse, ce qu'on appelle une réponse mémoire, c'est-à-dire que nos cellules immunitaires, lorsqu'elles ont déjà rencontré ce virus, gardent en mémoire la présence de ce virus, et quand notre organisme est de nouveau en contact soit avec le virus, soit avec le vaccin, cette réponse mémoire permet d'activer très très vite la fabrication en particulier d'anticorps. Donc on a des anticorps qui montent très vite et très haut, avec des capacités de neutralisation qui sont plus élevées. Donc c'est bien confirmé dans cette étude, qui montre en plus la neutralisation sur les nouveaux variants qui nous inquiètent tous. Donc c'est des résultats très intéressants.
Alors, autre bonne nouvelle, ce matin, l'Organisation mondiale de la santé affirme que tous les vaccins actuellement disponibles et approuvés sont efficaces contre tous les variants. Est-ce que vous partagez cet optimisme ?
Alors en fait, l'efficacité du vaccin, elle va dépendre de ce qu'on regarde. Ce qui nous intéresse, nous, en priorité, c'est l'efficacité des vaccins sur les formes graves, c'est-à-dire les formes qui vont nous conduire à l'hôpital ou être responsables d'un décès. Et pour cette efficacité, il y a non seulement la réponse en anticorps, mais il y a aussi notre réponse cellulaire qui permet justement d'être efficace sur ces variants. Et cette réponse cellulaire est beaucoup moins impactée par les variants que la réponse en anticorps. Donc aujourd'hui, tous les vaccins qui sont utilisés ont un effet sur cette réponse cellulaire et sur les formes graves de la maladie. C'est ce que l'OMS veut dire avec cette communication.
Cette formulation. C'est le variant indien qui inquiète en ce moment. Au Royaume-Uni, où il progresse beaucoup, le gouvernement vient de lancer des essais cliniques, présentés comme les premiers dans le monde, sur la réponse immunitaire engendrée par une troisième dose de vaccin. Est-ce que ça veut dire que de toute façon, il faut déjà penser à un rappel ?
Alors, on pense à un rappel, c'est vrai, mais pour l'instant, les données qu'on a à notre disposition sont des données sur la persistance des anticorps et qui montrent que cette durée de vie des anticorps, elle est finalement plus prolongée que ce qu'on pensait. Ici, on le voit jusqu'à un an dans cette étude.
Oui, mais c'est très variable, en fait.
Donc c'est variable. Ce qu'on sait aussi, c'est que si on veut avoir une efficacité maximum sur toutes les formes de Covid, il faut maintenir des anticorps à des titres élevés. Et donc c'est dans ce sens-là, pour éviter au maximum la circulation de ces virus et la sélection de variants, qu'il sera très probablement nécessaire de faire des rappels. Maintenant, l'intervalle avec lequel il faudra faire ces rappels n'est pas connu.
Oui, c'est ça. En fait, c'est le mystère du moment. Une troisième dose, d'accord, mais quand, on n'est pas encore en état de le dire.
Une troisième dose, très probablement. Dans quelle population? Ça, c'est aussi un c'est point ça. Important. Probablement que chez des gens qui répondent moins bien à la vaccination, il faudra faire une troisième dose de façon plus rapprochée. Tout ça, ça fait partie des questions de recherche qui aujourd'hui sont pas encore connues. On connaît pas d'échappement à la vaccination aujourd'hui, en dehors des cas très particuliers des personnes immunodéprimées pour lesquelles on sait qu'il va falloir trouver des stratégies pour améliorer leur réponse au vaccin.
En tout cas, tout cela est très positif pour l'instant. Merci beaucoup, professeur Launay, d'avoir pris quelques minutes pour nous dans RTL Midi. Merci, bonne journée.
Merci.
Dans un instant, on regarde notre facture d'électricité.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
L'UFC Que Choisir dénonce une explosion des factures d'électricité depuis 10 ans, une hausse de 50%. Avant d'entendre un responsable de l'association de consommateurs, la question du jour sur RTL.fr, votre facture d'électricité a-t-elle augmenté? Et la vôtre, Pascal Pro?
Eh bien, la mienne, elle a augmenté. Figurez-vous qu'il y a 3 semaines, je la reçois, je la trouve tellement plus importante que d'habitude, de l'ordre de 10 ou 20%, que j'ai appelé mes voisins. J'aurais dit, vous avez reçu, j'imagine que tout le monde fait ça, vous avez reçu votre facture d'électricité. Et ils m'ont dit la même chose, j'osais pas vous appeler. Ben, moi, je l'ai fait. Et alors, on a cherché à savoir, effectivement, d'abord, ça fait 15 ans que le marché est libre, donc ça devait baisser, a priori. Et à l'arrivée, on n'a jamais payé l'électricité aussi cher. Visiblement, ce qui coûte cher, c'est la gestion du réseau plus les taxes représentent 70%. De la facture. Et l'abonnement a augmenté ces dernières années, mais également la fiscalité a augmenté, comme toujours en France. C'est-à-dire que 37% de la facture est fiscale, contre 25% il y a 10 ans. Donc voilà pourquoi on paye plus cher.
Bon, ben on va y venir avec Armel Lévy. Vous pouvez nous appeler au 3210, évidemment, pour témoigner. Armel, concrètement, à combien évaluez-vous cette augmentation?
Eh bien, de 550 euros en 15 ans pour un foyer chauffé à l'électricité. La facture est passée de 1 000 à 1550 euros. Le tarif réglementé de l'électricité a bondi de 55%. Ça, c'est avec les taxes. Si on enlève les taxes, c'est plus 17% en 15 ans. Donc une bonne partie de la hausse, ce sont les taxes. Elles représentent aujourd'hui un tiers de votre facture. Un autre tiers, c'est l'acheminement de l'électricité, on paye le réseau. Et le tiers restant, c'est le coût réel de l'électricité. Mais ce qui gonfle artificiellement les prix, c'est que depuis 2010, EDF, qui produit son nucléaire, est aussi obligé d'en revendre à ses concurrents à un prix donné. Si les fournisseurs alternatifs trouvent de l'électricité moins chère sur le marché, ils l'achètent ailleurs. Sinon, ils en achètent à EDF. Mais c'est rationné, il y a un quota, ils ne peuvent pas acheter tout ce qu'ils veulent. Donc les fournisseurs sont obligés d'aller en chercher sur le marché, mais plus cher. Ça, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Donc pour ne pas pénaliser ses concurrents, pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité, chaque année, on fait comme si EDF avait dû aussi s'approvisionner sur les marchés. Donc on augmente le tarif réglementé pour permettre à la concurrence d'exister.
Nous sommes avec Antoine Autier, responsable adjoint des études à l'UFC Que Choisir. Bonjour.
Bonjour.
C'est un marché concurrentiel, extrêmement concurrentiel même. Pourquoi ceux qui ont choisi un autre fournisseur que EDF n'arrivent pas à faire baisser eux non plus leurs factures?
Alors, ils arrivent à faire baisser un peu leurs factures par rapport aux tarifs réglementés. Mais le problème aujourd'hui, c'est que même si les offres de marché sont légèrement inférieures aux tarifs réglementés, bah, l'ensemble des prix augmente. Et ça, c'est une constante qu'on remarque en tout cas depuis 10 ans, avec, comme vous l'avez expliqué, une hausse de 50% des factures. Et en réalité, ce qu'on met en évidence à l'UFC Que Choisir, c'est que certes, il y a un enjeu lié à la fiscalité qui est très importante.
Mais la hausse des taxes, un tiers de la facture. Armel Lévy.
Oui, mais c'est pas uniquement, parce qu'il faut savoir que les prix hors taxes, depuis 2010, en réalité, ont augmenté de 40%. Mmh. Et notamment, depuis 4 ans, bah, il y a eu 20% d'augmentation du prix hors taxes, alors que dans le même moment, la part des taxes dans la facture n'a pas augmenté. Donc en réalité, il y a un problème de fiscalité, un tiers de la facture, c'est énorme, avec notamment la TVA qui pèse sur les taxes propres à l'électricité, ce qui est un scandale. Mais malgré tout, le sujet important, c'est la façon dont le marché est organisé, car c'est aujourd'hui cette organisation qui fait que l'ensemble des prix augmente.
Et alors, quel est le problème avec l'organisation du marché? C'est parce que EDF doit revendre
En partie, mais c'est en réalité ce qui se passe, c'est qu'on a dit à EDF, vous devez revendre une partie d'électricité à vos concurrents, mais surtout, on leur dit, vous devez simplement limiter la quantité que vous vendez à ces concurrents. Donc en fait, les concurrents sont obligés d'aller sur les marchés où les prix sont plus chers, et oui, évidemment, ça augmente les prix. Et le tarif réglementé est légalement obligé de répercuter les hausses des tarifs des offres de marché, donc ce qui veut dire que l'ensemble des prix augmente, alors qu'en réalité, il suffirait de simplement modifier la régulation pour immédiatement avoir une baisse des tarifs sur le marché.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de conjoncturel avec la reprise économique, il y aura une demande plus forte, donc on ne voit pas bien comment on va échapper à cette inflation ?
Oui, alors il peut y avoir une demande plus forte, c'est vrai, mais parallèlement, il faut aussi voir que l'offre d'électricité augmente avec plusieurs paramètres qui peuvent jouer. L'Allemagne notamment qui a décidé d'arrêter ses centrales à charbon, donc ça a peut-être pesé à la hausse sur les prix, mais parallèlement, il y a quand même un développement des énergies renouvelables avec une hausse, on va dire, de l'offre d'électricité, ça pourra compenser la hausse de la demande, bien entendu.
Merci beaucoup, merci Antoine Autier, responsable adjoint des études à l'UFC que choisir de nous avoir expliqué tout ça. Des factures d'électricité trop chères et des pensions de retraite sur lesquelles il y a beaucoup d'erreurs. Actuellement, la France compte plus de 16,7 millions de retraités avec une pension moyenne de 1393 euros net par mois. Or, la Cour des comptes estime que un dossier sur six géré par les caisses du régime général fait l'objet d'une erreur, Anaïs Bouissou.
Oui, pour 2020, précisément 16,4% des dossiers étudiés par la Cour des comptes comportent des erreurs. Alors, ce n'est pas nouveau hein, qu'il y ait des erreurs sur les pensions qui viennent d'être attribuées, sauf que ces problèmes de calcul sont en augmentation. Vous l'avez dit, on parle d'un dossier sur six en 2020. Eh bien, si on remonte à il y a 5 ans seulement, c'était un dossier sur 9. Ces erreurs peuvent être soit de l'argent en trop, soit des oublis, mais dans les 3/4 des cas, quand même pas de chance, hein, c'est de l'argent en moins, parfois quelques euros de moins, parfois aussi des manques à gagner bien plus importants, supérieurs à 120 euros sur un an. Suite à l'alerte de la Cour des comptes, les ministres de la Santé, des Comptes publics et le secrétaire d'État aux retraites se sont immédiatement fendus d'un communiqué dans lequel ils disent, je cite, qu'ils prennent acte des conclusions de la Cour des comptes et ils assurent qu'une nette amélioration, je cite toujours, hein, une nette amélioration de la qualité des prestations versées est prévu pour 2021.
Anaïs Bouissou, à l'étranger, l'Espagne accuse le Maroc d'agression et de chantage après l'arrivée massive de 8000 migrants dans l'enclave de Ceuta en Afrique. L'image d'un bébé sauvé de la noyade par un agent de la garde civile espagnole a suscité beaucoup d'émotions. Cette vague migratoire a pour toile de fond en fait une crise diplomatique entre les deux pays depuis que le chef des indépendantistes sahraoui du Front Polisario, ennemi juré du Maroc, est soigné en Espagne. Les frappes continuent entre Israël et la bande de Gaza. Joe Biden, soucieux de ménager Israël, appelle à une désescalade mais pas au cessez-le-feu et ne soutient donc pas la résolution déposée par la France aux Nations Unies. Les affrontements ont fait au moins 239 morts en 10 jours. On fait une pause et dans un instant, une indemnisation pour les femmes victimes de prothèses mammaires PIP.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Elles ont souffert dans leur corps, elles seront indemnisées. Dans le scandale sanitaire des prothèses mammaires PIP, la Cour d'appel de Paris a donné raison au civil à 2500 plaignantes ce matin. La société allemande TÜV, qui avait certifié ces prothèses alors qu'elles étaient défectueuses, vient d'être condamnée, Gauthier Delombuga.
Oui, le groupe n'aurait pas dû certifier des centaines de milliers de prothèses mammaires PIP défectueuses. Selon les juges, la société a manqué à son devoir de contrôle et de vigilance. Maître Olivier Omettre est à l'origine de cette procédure.
Le groupe TÜV Rheinland va devoir indemniser l'ensemble des victimes, 25 000 femmes dans les juridictions françaises. Mais il faut avoir à l'esprit qu'il y a dans le monde entier peut-être 400 000 femmes qui sont porteuses de ces implants. Les décisions que nous avons obtenues, lorsqu'elles ouvrent la voie à l'indemnisation, pourrait convaincre de nouvelles victimes de se rejoindre à nos actions en France.
Une expertise va reprendre afin d'évaluer les préjudices de façon individuelle. Christine est l'une des victimes françaises.
C'est un soulagement aujourd'hui. On reconnaît enfin notre statut de victime. On a presque toutes des séquelles. Pour ma part, j'ai encore du silicone dans l'organisme autour des ganglions axillaires. Si le procès s'arrête aujourd'hui, pour ma santé, ça ne s'arrête pas.
Un jugement est attendu en septembre prochain pour un premier groupe de patientes qui demande de 20 à 70 000 euros. De son côté, la société TÜV conteste la décision.
6 mois après la mort de Diego Maradona, les 7 personnes mises en examen en Argentine sont désormais inculpées pour homicide volontaire et non plus involontaire. La justice estime qu'il ne s'agit pas d'une négligence de l'équipe médicale autour de l'idole du foot, mais que médecins et soignants n'ont rien fait pour éviter sa mort alors que le danger était visible. Diego Maradona était décédé d'une crise cardiaque après une opération du cerveau. Après un faux départ en mars dernier pour cause de Covid, le procès Big Malion s'ouvre dans moins d'une heure devant le tribunal correctionnel de Paris. Il s'agit des dépenses excessives de la campagne présidentielle de 2012. Nicolas Sarkozy est poursuivi pour financement illégal. Il n'est pas sûr, Cindy Hubert, que l'ancien président vienne tout à l'heure au palais de justice.
Oui, Nicolas Sarkozy pourrait décider de ne venir que certains jours, d'assister seulement aux audiences qui le concernent, voire de ne pas mettre un pied au tribunal, ce qui est tout à fait possible. Il sera alors représenté pendant tout le procès par son avocat. L'ancien président a toujours dit qu'il répondrait présent si la justice a besoin de lui, fait savoir son entourage. Une manière de faire comprendre qu'il n'est pas au centre de ce dossier. Et c'est vrai que l'enquête n'a pas permis de démontrer que Nicolas Sarkozy a ordonné ce système de fausses factures, ni même qu'il en a été informé. Alors qui savait vraiment qui a trafiqué les comptes de campagne? Comment ont été dépensées ces sommes extravagantes? Près de 20 millions d'euros au-dessus du plafond légal. Qui a exécuté et n'a rien dit? C'est un jeu de mistigris à 14 personnes qui commence ici pour un mois.
Cindy Hubert en direct du Palais de Justice de Paris.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons aujourd'hui dans le centre-ville de Bordeaux, retrouver un homme qui brandit une pancarte, place de la Comédie. Il a 80 ans, il est entrepreneur dans le bâtiment près de Libourne et il cherche des bras. Et vous êtes près de lui, Philippe de Maria.
Oui, je me trouve avec Alejandro Pinot. On est au tout début de la rue Sainte-Catherine. Alejandro, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Qu'est-ce que vous faites ici? Expliquez-moi ce qui a marqué sur votre affiche.
Il s'agit de trouver des personnels pour travailler dans mon entreprise, pour les postes de maçonnerie et de coureur. Si ça marche, on me fait un contrat en CDI. Pour l'emploi, ça fait déjà au moins 6 mois que j'ai mis une annonce, mais ça ne donne rien de tout.
Et Alejandro, vous pouvez fournir du travail?
Voilà. Pour le moment, j'en ai 4 chantiers à faire. Les devis sont signés, mais il manque des personnels. Pour le temps, ça ne marchait pas.
Vous gardez espoir, hein, Alejandro, j'ai l'impression.
Mais oui, parce que c'est le travail, c'est ma passion. Je ne peux pas rester sans travailler. Même à mon âge, j'ai 80 ans, c'est ma passion. Je ne critique pas les gens qui jouent à la pétanque, à la velota, qui vont à bistrot, en vacances. Non, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis passionné pour le travail.
On vous souhaite bonne chance, Alejandro.
Je vous remercie beaucoup, mon cher ami. Et un dessin.
Voilà, c'était le coup de cœur de ce journal de 12h30 avec Alejandro qui cherche effectivement un maçon et un charpentier. Et je vais vous donner le numéro, c'est le 06 95 78 89 48 si vous cherchez du travail dans le bâtiment, dans la région de Bordeaux.
Bon, je répète le numéro, merci Philippe, 06 95 78 89 48, voilà. Le plus gros iceberg au monde s'est détaché de la banquise en Antarctique. Il fait 170 km de long sur 25 km de large, soit à peu près la moitié de la Corse. C'est comme si la planète comptait une île de plus, mais flottante celle-là. La planète qui s'est réchauffée de 1 degré depuis l'ère pré-industrielle à cause des gaz à effet de serre, mais de 2 degrés dans cette région de l'Antarctique. Pascal Pro, le dialogue s'ouvre dans 5 minutes au 3210.
L'information qui m'a le plus marqué dans votre journal, curieusement peut-être, c'est Maradona. C'est-à-dire oui. Que le peuple argentin, au fond, il ne peut pas accepter l'idée qu'il soit...
Ah oui, absolument.
C'est terrible, parce qu'il était dans un état, on peut le dire ici, les Argentins ne nous écoutent pas, mais il était dans un état lamentable, Maradona.
Absolument, il avait des
énormes
problèmes de santé.
C'était lui qui était sans doute responsable de l'état dans lequel il était, avec tous les abus. Et les médecins qui l'ont accompagné aujourd'hui, on leur dit, c'est vous qui êtes responsable de sa mort. Donc, leur vie est terminée à ces médecins. Évidemment, ils n'ont eu qu'un tort, c'est de s'occuper du patient Maradona.
Du Dieu,
exactement.
On ne s'occupe pas de Dieu,
je suis bien d'accord avec vous. Et je pensais à eux parce que c'est terrible, homicide volontaire, c'est bien cela. Bon, je ne suis pas sûr que ça passionne nos auditeurs, mais en revanche, le problème de la police et la justice, ça c'est une phrase importante qui a été dite hier à la manifestation, vous pourrez réagir à cette phrase. Ce qu'a dit également le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a appelé cette manifestation factieuse, hein, d'une certaine manière. On pourra écouter la chanson officielle des Bleus qui est interprétée par le rapport Youssoupha et qui fait polémique, puisque le numéro 2 du Rassemblement National, Jordan Bardella, a estimé que choisir ce rappeur s'est cédé à une partie racaille de la France, donc en pleine nuance, Rassemblement National. La facture d'électricité, vous pourrez évidemment en parler, puis la réouverture des terrasses, vous y étiez hier.
Ah, c'était formidable, je vous jure, franchement, voir d'autres villes formidable. Revivre, sortir de ce côté fantomatique, c'était délicieux.
On en est où dans ce pays,
ouais. Ah, oui.
Saluer l'ouverture, prendre des terrasses et prendre des cafés. Quelle vie.
C'est ça notre vie.
Oui, je dirai quelque chose tout à l'heure.
D'accord, tout à l'heure alors. La météo, Peggy Broche, un peu moins désespérante.
Mais oui, on va pouvoir aller en terrasse, justement. C'est la meilleure journée d'ailleurs.
C'est le meilleur jour.
Et c'est le meilleur jour de la semaine, parce qu'on peut se passer du parapluie sur la majeure partie du pays, un temps sec. Alors, sauf, c'est vrai, entre la Bretagne, la Basse-Normandie, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui donne beaucoup de nuages, et de vent également, mais peu de pluie. Bon, il n'est pas impossible qu'il y ait allé 2-3 gouttes encore sur l'extrême nord-est, mais partout ailleurs, on profite d'un temps sec bien lumineux sur toute la moitié sud, plus voilé, c'est vrai, sur toute la moitié nord. Vous savez, ce ciel blanchâtre qu'on a. Mais bon, au moins, on n'a pas de pluie, donc on en profite. En plus, les températures remontent un peu partout. Alors, encore plus sur la moitié sud, et là, on est sur des valeurs de saison, jusqu'à 24 degrés à Tarbes, comme à Marseille, 23 à Perpignan, Toulouse, 20 degrés à Lyon, 19 à Paris et Tours, 18 à La Rochelle et Nantes, 17 à Caen, Reims et Nancy, et 15 à Cherbourg.
C'est sympa, mais demain, patatras.
La calmie sera de courte durée, c'est clair. Il faudra bien en profiter aujourd'hui. Demain, on oublie, on reprend le parapluie. La perturbation, elle se retrouvera le matin entre la Gironde et le Jura. Beaucoup de nuages de part et d'autre, sauf dans le sud où ça reste lumineux. Dans l'après-midi, le ciel sera bien couvert et pluvieux entre l'Aquitaine, le Massif central, jusqu'aux frontières de l'Est avec des pluies soutenues à l'Est. Sur le Nord-Ouest, retour de l'instabilité, alternance de nuages, d'éclaircies, de vent, voire d'orage. Bon, vous l'avez compris, hein, ça aura été de courte durée. Ça restera, allez, beau et sec, vraiment sur l'extrême sud et la Corse, le tout sous des températures qui vont du coup baisser, surtout dans le sud-ouest.
Ah bah oui.
23 cet
après-midi.
Faudrait
pas qu'on ait chaud, quoi.
Bah, c'est ça. Ça 23 à Bordeaux aujourd'hui, demain 15 degrés.
Ah, sympa.
Faudra se couvrir. 14 à Brest, 17 à Paris, mais encore 24 à Perpignan.
Merci quand même, Peggy. À suivre, le rappel des titres, il va être 13h sur RTL.
RTL.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Police et justice qui sont mis face à face. On est avec François. Bonjour François.
Bonjour Pascal.
Est-ce que vous partagez cette phrase ? Le problème de la police, c'est la justice. C'est ce qu'a dit hier un syndicat de policiers, un syndicaliste de policiers, en l'occurrence la Police Alliance.
C'est en partie vrai, mais je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Le malaise doit être plus profond.
Le syndicat Alliance, bien sûr, voulais-je dire. Le rappel des titres avec Christelle.
Deuxième jour de liberté avec un couvre-feu décalé à 21h, mais Jean Castex lance déjà un rappel à l'ordre. Le Premier ministre demande à chacun de respecter les règles. Personne ne veut fermer les terrasses, dit-il. Il va annoncer cet après-midi une accélération de la vaccination pour les plus de 18 ans. Ce sera dès le 7 juin, information RTL. On a les premiers chiffres des entrées dans les cinémas, plus de 283 000 dans la seule journée d'hier. C'est exceptionnel vu le contexte et la jauge à 35% dans les salles obscures. Info RTL de Stéphane Boutsock. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé affirme que les vaccins qui ont été approuvés sont efficaces contre tous les variants du virus. Mais il demande tout de même à garder les gestes barrières et à rester prudent. Le procès Big Malion s'ouvre dans une demi-heure à Paris. Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir laissé filer ses comptes de campagne en 2012 au-delà de leur plafond légal. Les dépenses étant dissimulées par un système de fausses factures, il y a 14 prévenus. Pas sûr que l'ancien président soit présent tout à l'heure. 2500 femmes indemnisées après avoir porté des prothèses mammaires PIP. La société qui avait certifié ces prothèses pourtant défectueuses vient d'être condamnée par la Cour d'appel de Paris.
Pascal Praud.